Il est 18h sur France Culture, l'heure du journal. Avec Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Patrick Balkany va sortir de prison. La cour d'appel de Paris a décidé de tenir compte de l'état de santé dégradé de l'ancien maire de Levallois, condamné dans plusieurs dossiers. Les explications de Florence Thiom dans un instant. L'UFC Que Choisir dénonce la flambée des prix des complémentaires santé, 5% en moyenne depuis le début de l'année. Chiffre contesté par la mutualité française. Nous ferons le point avec Hakim Kasmi. Le dossier de ce journal sera consacré à la diversité et à l'inclusion dans l'entreprise. Des chartes et des labels ont été mis en place avec des résultats contrastés, nous dira Fiona Mogadam. Les associations antiracistes se mobilisent contre le racisme anti-chinois qui prend de l'ampleur en France avec le coronavirus, un racisme jusqu'ici négligé, les précisions de Diane Berger. Le pape François renonce à remettre en cause le célibat des prêtres en Amazonie. Le souverain pontife a publié aujourd'hui une exhortation qui évite soigneusement le sujet. Bruce de Galzin nous appellera de Rome. Patrick Balkany va bientôt retrouver la liberté, sans doute dès ce soir. La cour d'appel de Paris a ordonné aujourd'hui la libération du maire de Levallois-Perret. L'élu Les Républicains est incarcéré depuis le 13 septembre après ses condamnations pour fraude fiscale et blanchiment aggravé. Florence Thiom, bonsoir.
Bonsoir.
La cour d'appel constate que la dégradation de l'état de santé de Patrick Balkany est difficilement compatible avec la détention. J'ajoute d'ailleurs que Patrick Balkany est sorti de prison.
Oui, toutes les demandes de remise en liberté présentées par Patrick Balkany avait été rejeté à l'exception d'une seule, mais assortie d'une caution de 500 000 euros que le maire de Levallois affirmait ne pas pouvoir payer. Aujourd'hui, la cour d'appel a accepté d'examiner cette nouvelle demande dans l'urgence, à peine terminé le second procès pour blanchiment de fraude fiscale, et ce, compte tenu de l'urgence médicale actée par une expertise qui mentionne une pathologie digestive grave et un état dépressif marqué. Son avocat, Romain Dieudonné, a donc finalement obtenu gain de cause.
C'est évidemment ce que j'espérais, c'est ce qui est justifié. C'est pas une faveur qui est accordée, c'est le résultat de l'expertise médicale que la Cour a ordonnée et qui faisait état d'une situation médicale inquiétante. Donc là, l'objectif exclusif, c'est que Patrick Balkany puisse aller se soigner. La justice n'a pas fait de cadeau, encore une fois, à Patrick Balkany. C'est juste que la situation médicale, qui résulte non pas d'une expertise que j'ai produit moi, mais que la Cour a demandé, indiquait que c'était plus possible et qu'il fallait le laisser sortir pour se soigner.
Selon sa famille, Patrick Balkany aurait perdu 30 kilos durant ses 5 mois de détention. Très affaibli, il n'a pas assisté au second volet de son procès en appel. Il attendra donc libre les deux décisions de justice à venir, les 4 mars et 22 avril prochains. La Cour n'a cette fois pas imposé à Patrick Balkany de régler une caution pour sortir de prison. Son contrôle judiciaire lui interdit en revanche de quitter le territoire français. Il doit résider au moulin de Giverny et pointer 2 fois par mois à la gendarmerie. Mais rien ne l'empêche, s'il le souhaite, d'assister au dernier conseil municipal avant élection prévu demain soir à Levallois.
Florence Thiom, merci. Toujours au chapitre politico-judiciaire, il y a cette perquisition aujourd'hui au siège de Gallimard à Paris dans le cadre de l'affaire Gabriel Matzneff. La justice a ouvert une enquête contre l'écrivain pour viol sur mineur. Selon une source proche du dossier, les enquêteurs recherchaient chez Gallimard des écrits de Gabriel Matzneff ne figurant pas dans ses ouvrages publiés. La charge contre les mutuelles est violente. L'UFC Que Choisir dénonce une flambée des tarifs des complémentaires santé. L'association de consommateurs évoque une augmentation moyenne de 5% depuis le début de l'année. La hausse atteindrait les 12% chez Swiss Life et 10,7% chez Apicil. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, Stanislas Vazak.
La mutualité française conteste en bloc les chiffres du UFC Que Choisir.
Oui, alors concrètement, les augmentations vont de 80 à 150 euros par an, et ce sont surtout les personnes âgées qui connaissent les plus fortes hausses de leur mutuelle. Parmi les raisons qui expliquent cette augmentation, la mise en place le 1er janvier dernier du 100% santé qui permet de réduire les dépassements de frais sur l'optique et le dentaire. Mathieu Esco, directeur d'études à l'UFC Que Choisir.
Peut-être que certains organismes complémentaires qui ont une inflation particulièrement marquée avaient peut-être une solvabilité de leur contrat qui était insuffisante et qui a amené à rééquilibrer ces contrats avec, en passant des très fortes hausses de cotisation. Ou alors peut-être que d'autres ont voulu avoir une forme d'inflation anticipée, soit liée au 100% santé, qui s'applique progressivement en 2020 et 2021, soit peut-être parce que à partir de la fin d'année, et nous espérons même avant, les consommateurs pourront plus facilement changer de complémentaire santé tant que les consommateurs sont captifs.
Une hausse des tarifs que dénonce la mutualité française de 5%, qui indique que l'enquête de l'UFC se base en fait que sur un appel à témoignage. D'après ses propres calculs, la hausse moyenne serait en fait que de 2,4%. Albert Lottmann, le directeur général de la mutualité française.
Les mutuelles augmentent de 2 à 3% chaque année depuis une dizaine d'années. Ça n'a rien à voir avec la réforme du reste à charge zéro. C'est lié essentiellement au vieillissement de la population, au développement des pathologies chroniques, à l'évolution du coût de la santé.
Pour faire baisser les tarifs, l'UFC demande donc d'avancer la résiliation des contrats à tout moment pour faire jouer la concurrence, une mesure qui doit s'appliquer normalement qu'à partir du 1er décembre.
Hakim Kasmi, merci. La fin du quinquennat après les retraites, c'est le régalien et l'écologie. Voilà ce que disait Emmanuel Macron hier soir à l'Élysée aux députés de sa majorité. Le président qui entame aujourd'hui une séquence consacrée à l'environnement qui l'emmènera ce soir au pied du Mont Blanc, mis à mal par le réchauffement climatique. Ce matin, Emmanuel Macron a présidé un conseil de défense écologique, instance créée à l'issue du grand débat post-gilets jaunes. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir.
Ce conseil a débouché sur un certain nombre de mesures destinées à verdir l'action des services de l'État, mais il n'y a pas franchement de mesures structurelles dans le lot.
Il faut mener une politique écologique massive et concrète, c'est l'ambition affirmée par le chef de l'État à l'issue de ce quatrième conseil de défense écologique consacré ce matin à la protection du littoral et de la biodiversité, avec un engagement des services publics à une transformation rapide de leurs pratiques, notamment dans les déplacements professionnels et domicile-travail. Ce sont des mesures cosmétiques, estime l'avocate Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement.
C'est vraiment de la mesurette. Le président est au Mont-Blanc, dans le même temps il autorise une autoroute A412 dont on n'a absolument pas besoin, qui va aboutir dans un cul-de-sac et qui part de Thonon-les-Bains, c'est-à-dire dans cette région extrêmement fragile.
Corinne Lepage sur France Info qui dénonce une déconstruction du droit à l'environnement au profit des industriels. Ce tournant vert du chef de l'État est jugé insuffisant par Clément Sénéchal de Greenpeace France. Il dénonce un coup de com' du président de la République.
Il n'y a pas de volonté aujourd'hui, très clairement, d'agir contre le changement climatique. Cette volonté, elle se manifesterait par quoi ? Elle se manifesterait par le fait de mettre des mesures contraignantes, des réglementations contraignantes sur les entreprises, sur le secteur privé, pour les obliger à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, pour les enchaîner à l'accord de Paris.
Alors cet engagement du chef de l'État pour un nouveau modèle économique n'est pas dicté par un agenda politique, assure Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement.
Le président de la République a vocation à s'exprimer sur tous les sujets qui préoccupent nos compatriotes et il ne faut pas avoir de corrélation spécifique avec les élections municipales.
Alors en lançant ce chantier d'écologie, Emmanuel Macron se projette déjà sur un enjeu qui sera déterminant pour la fin du quinquennat. Mais sur cette thématique, le chef de l'État est aujourd'hui en concurrence avec toutes les autres formations politiques, à commencer par celle qui défend ses valeurs depuis longtemps.
Pierre Neveu, le dossier de ce journal est consacré à la diversité et l'inclusion dans le monde de l'entreprise, un sujet auquel s'intéressent de plus en plus les entreprises, même si les inégalités restent palpables dans ce milieu. La semaine dernière, par exemple, le gouvernement épinglait 7 grands groupes pour discrimination dans leur recrutement. Alors pour attester ou mesurer les engagements des entreprises en matière de discrimination et d'inclusion, il existe une multitude d'outils, des chartes, des labels, des indices, lancés par des associations, les pouvoirs publics ou encore des start-up. Mais pourquoi les entreprises ont-elles ce besoin de calculer et d'afficher leurs engagements ? C'est le sujet de votre reportage, Fiona Bougadam.
Le tout dernier outil lancé pour mesurer la diversité et l'inclusion des entreprises est une plateforme consultable en ligne. Pour chaque entreprise qui s'est prêtée au jeu, moyennant un abonnement d'un an qui varie de plusieurs centaines à quelques milliers d'euros, divers indicateurs affichent un score en pourcentage dans 5 domaines, genre, handicap, multiculturel, multigénérationnel et LGBT+. Ce score est calculé grâce à un questionnaire envoyé à l'entreprise. Sandrine Charpentier est l'une des fondatrices de la start-up Mixity, à l'origine de cette plateforme. plateforme.
Nous, on est dans des milieux de la tech où, effectivement, on constate déjà chez nous que la diversité n'est pas forcément très présente. Donc, on s'est dit que, finalement, la data, l'innovation technologique pouvait aussi répondre à des grands enjeux de société, résoudre des problèmes. Et finalement, on s'est dit, ben, c'est effectivement un problème qu'aujourd'hui, les organisations n'aillent pas davantage s'engager sur la diversité et l'inclusion et que la donnée, la mesure, la transparence des données qui est très demandée aujourd'hui par tout le monde, par les internautes, puisse être aussi un outil de progrès.
Et pour l'entreprise, c'est un moyen de savoir où elle en est. Sybille Kerebecker, en charge du développement social de la diversité et de l'inclusion chez AXA France.
Pour agir, il faut pouvoir se fixer des objectifs mesurables. C'est-à-dire de se dire, on a non seulement un score à la date d'aujourd'hui, mais quelles sont les actions que nous allons poursuivre, enclencher. Il y a notamment l'accès des femmes à tout ce qui concerne les fonctions de dirigeants. On s'est fixé un objectif de 45% de femmes parmi les cadres dirigeants. On n'en est pas loin, on est à la date d'aujourd'hui au-dessus de 42%.
Des objectifs plutôt louables. Du côté de la CGT, on estime ces mesures nécessaires, avec un regret tout de même. Aujourd'hui, la plupart des index ou labels diversité ne font ni appel aux salariés, ni aux syndicats. Céline Verzelletti est secrétaire confédérale de la CGT, chargée des questions d'égalité et de discrimination.
Pour nous, organisation syndicale qui avons à agir sur ces questions-là à l'intérieur des entreprises. C'est beaucoup plus compliqué de le faire dans des entreprises qui ont obtenu ces labels, puisqu'elles se disent finalement assez exemplaires en la matière. Ce qui nous semble essentiel, c'est qu'il y ait une réflexion collective sur l'élaboration de ces outils et que ces outils soient élaborés avec notamment les organisations syndicales aussi, parce qu'en fonction des critères qui sont pris en compte ou en fonction de la façon dont on mesure, au lieu de mettre en exergue ces discriminations, ça peut quasi les masquer.
Alors le seul moyen de garantir un calcul en toute indépendance de ces indicateurs, c'est que les pouvoirs publics les mettent en place. C'est en tout cas ce que pense le sociologue et professeur à l'université Paris 1, Jean-François Amadieu.
Dans les labels ou les startups qui se lancent dans l'exercice, il faut que les labels soient délivrés par des gens qui sont indépendants. Il ne faut pas que ce soit payé par les entreprises. Il faut ensuite que les labels utilisent des indicateurs statistiques qui sont précis, incontestables, mesurés de façon indépendante.
Et pour Jean-François Amadieu, ce qui pousse les entreprises à prendre en considération de plus en plus les questions de diversité et d'inclusion, ce sont non seulement les obligations légales sur l'égalité femmes-hommes, par exemple, mais aussi les perceptions de l'opinion en la matière.
Voilà pour ce reportage de Fioda Mogadam, à retrouver en longueur sur franceculture.fr. Le coronavirus chinois a désormais un nom, le Covid-19, nom scientifique fourni par l'Organisation mondiale de la santé. L'épidémie a déjà fait 1113 morts en Chine, selon les derniers chiffres officiels. Pékin qui se rassure en constatant un ralentissement du nombre de nouveaux cas, environ 2000 aujourd'hui contre 3000 lundi. En attendant, les populations menacées font face à des pénuries d'équipements de protection. Exemple à Hong Kong avec ce reportage de Florence de Changy.
Aujourd'hui, c'est en fonction du nombre de masques et de rouleaux de papier toilette que vous avez en stock que votre richesse est évaluée. C'est la dernière plaisanterie des Hongkongais face à la pénurie continue de masques. Une semaine après une queue record de 4 km de long, la situation ne s'est pas franchement améliorée. Chacun se débrouille comme il peut, comme l'explique Lenzi, qui, elle, vend des abonnements de téléphone dans le quartier populaire de Aberdeen.
Je demande à mon frère de m'en acheter au Japon. Ma cousine, elle, tous les matins, elle sort de chez elle à 7h et attend devant le Manning. Et vers 8h30, il vous dit si vous pouvez en acheter ou pas. Mais aucune garantie, une chance sur deux. Et quelqu'un de ma famille travaille à l'hôpital et ils doivent faire attention à leur consommation. Et ça, c'est franchement horrible. Surtout pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux.
Le jeune floriste Gordon, quant à lui, a trouvé une solution pour faire durer son masque plus longtemps.
Un ami me rapporte de Thaïlande, j'en consomme un tous les deux jours en mettant un mouchoir en papier à l'intérieur. Parce que je suis obligé de beaucoup parler, donc il faut que j'économise mes masques.
L'un des partis pro-Pékin de Hong Kong a d'ailleurs proposé que des lois d'urgence soient passées
afin de réguler la distribution et le prix des masques.
Florence Dechangy, envoyée spéciale à Hong Kong. En France, cette épidémie de coronavirus met en difficulté la communauté chinoise. Des personnes d'origine asiatique sont parfois prises à partie dans la rue, les entreprises ou les commerces, mais aussi dans les cours d'école. SOS Racisme juge la situation suffisamment préoccupante pour appeler à un rassemblement en ce moment à la Gare du Nord à Paris contre le racisme anti-chinois. Diane Berger, bonsoir.
Bonsoir.
Après avoir été longtemps négligé, ce racisme anti-chinois devient un sujet majeur pour les associations antiracistes.
En effet, dans les locaux d'SOS Racisme, ce midi, Lise Garnier, l'organisatrice du rassemblement, faisait défiler une série de tweets sur son ordinateur, tous autour du coronavirus. Voici quelques extraits.
Qu'est-ce qui est jaune et qui attend un Chinois en quarantaine? Je vous raconte pas mon envie de battre les jaunes avec ce coronavirus et j'ai pas parlé de l'œuf jaune. Jamais de la vie je vais en Chine. Pays de tarés, violents, menteurs, à gerber ces Chinois. Objectivement, on a fait une demi-heure de recherche, on en a trouvé 15. Les gens, ils pensent que c'est pas grave ce qui est tenu sur Internet. Et sauf que les études ont prouvé que les discours de haine proférés sur Internet ont un impact réel sur les personnes. Ça alimente les préjugés et ça conduit parfois à des actes racistes ultra-violents en fait.
Laetitia Chive l'a constaté, elle dirige l'association des jeunes chinois de France et depuis le début de l'épidémie, on lui rapporte de très nombreux cas, des enfants exclus par leurs camarades de classe par exemple ou des étudiants pris à partie dans le métro.
C'est la libération d'une parole raciste anti-asiatique, car en réalité c'est quelque chose qui existe, mais de manière latente. Maintenant, après le déferlement de propos sinophobes et anti-asiatiques en général, nous pensons que l'action de prévention est la plus importante. Nous sommes désormais en contact avec le ministère de l'Éducation pour la réalisation de supports pédagogiques.
Le ministère qui leur a notamment promis d'inclure les discriminations anti-asiatiques dans les programmes lors de la semaine contre le racisme qui aura lieu le mois prochain dans les écoles.
Diane Berger, merci. La relation privilégiée entre la Russie de Poutine et la Turquie d'Erdogan résistera-t-elle à la guerre en Syrie? La tension monte entre Moscou et Ankara alors que les forces du régime Assad poursuivent leur offensive pour reprendre la région d'Idleb avec le soutien des Russes. Une offensive qui se heurte à la présence de soldats turcs dans le secteur. 14 de ces soldats ont été tués en une semaine dans des tirs de l'artillerie syrienne. Dans un discours d'une rare violence ce matin, le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé de frapper partout le régime Assad en cas de nouvelle attaque contre ses soldats. Claude Bruyot, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
En direct de Moscou, Claude, Erdogan accuse la Russie de complicité dans le massacre de civils syriens. Les Russes l'accusent en retour de ne rien faire contre, je cite, les terroristes d'Idleb.
Effectivement, et en appui des dénégations du Kremlin cet après-midi, le ministère russe de la Défense renvoie la faute correspondant au chaos grandissant dans la région d'Idleb sur l'armée turque. Rien n'est fait, dit-on, à Moscou du côté turc pour séparer sur le terrain les militants de l'opposition syrienne modérée des groupes terroristes. La Russie rappelle que cette mission incombe à la Turquie en vertu des accords de Sotchi. Et pour que les choses soient claires, vu du Kremlin, l'entourage de Vladimir Poutine affirme que les forces syriennes de son allié Bachar al-Assad ne frappent pas les civils, mais uniquement les terroristes. Sorti de cette posture et après l'échange téléphonique, Poutine-Erdogan, aujourd'hui présenté officiellement comme l'émanation de la volonté des deux leaders de préserver encore l'essentiel en termes de coopération sur place, eh bien que reste-t-il réellement de l'accord de Sotchi qui prévoyait en 2018 carrément la fin des combats à Idleb? Plus grand-chose en vérité. Ce soir, des médias fédéraux russes s'arrêtent sur l'information selon laquelle l'armée turque installerait des systèmes de missiles près de ses positions d'observation dans le secteur d'Idleb pour répondre plus durement à toute nouvelle offensive de l'armée syrienne qui atteindrait ses positions. Mais les ponts ne sont pas rompus pour autant entre Moscou et Ankara. Une délégation turque est attendue prochainement en Russie, Stanislas, pour essayer de faire diminuer les tensions dans la région d'Idleb.
Claude de Bruyot, correspondant à Moscou, merci. Le pape est prudent sur la remise en cause du célibat des prêtres. François a décidé aujourd'hui de ne rien décider sur l'ordination d'hommes mariés en Amazonie. Le souverain pontife qui a publié une exhortation apostolique intitulée « Chère Amazonie ». Il s'agit là d'un document qui engage l'Église catholique, un texte où le pape François dénonce les crimes des entreprises qui détruisent l'Amazonie et qui ne respectent pas les droits des peuples autochtones. En revanche, il ne dit rien de la proposition des évêques du synode pour répondre à la pénurie de prêtres. Les explications à Rome de Bruce de Galzin.
Plus des deux tiers des évêques du synode réclamaient l'ordination d'hommes mariés et pas uniquement pour l'Amazonie. Le pape refuse de changer les règles alors que des exceptions existent déjà pour les anglicans et dans les églises orientales. et c'est un choix clair et assumé, explique Andrea Tornielli, directeur éditorial des médias du Vatican.
Le pape a décidé de ne pas ajouter de nouvelles exceptions parce qu'il estime que la réponse n'est pas celle-là. Le synode fait des propositions, mais le pape, et c'est lui qui décide. Ce n'est absolument pas un pas en arrière. Si, c'est un pas en arrière par rapport à un courant médiatique aussi qui a considéré que tout le problème de l'Amazonie se résumait à ordonner prêtres des hommes mariés.
C'est vrai, il y a bien eu un courant de cardinaux plus réformistes en Amazonie, notamment, qui poussaient dans ce sens. Mais de l'autre aussi, des cardinaux totalement opposés à ce que le pape ouvre une brèche. Selon le vaticaniste Marco Politi, auteur de La solitude de François, le pape a dû renoncer.
Le pape même avait encouragé les débats, mais c'est très clair que le pape a été stoppé net dans cette guerre civile souterraine qu'il y a aujourd'hui dans l'Église catholique. L'ancien président de la conférence épiscopale italienne, le cardinal Ruini, avait publiquement dit « J'espère et je prie que le pape ne va pas décider dans ce sens. Il y avait des autres de la hiérarchie qui étaient contre. »
Finalement, pour pallier le manque de prêtres en Amazonie, François demande aux évêques d'envoyer des missionnaires sur place.
Bruce de Galzin, correspondant à Rome. Le temps demain se dégrade par le nord-ouest avec une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse. Il neigera en montagne. Le ciel sera plus variable sur les régions méditerranéennes. Les températures minimales seront comprises entre 0 et 9 degrés du nord au sud. Les maximales évolueront entre 9 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.